Bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. Aujourd'hui, on a...
Bonjour.
Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, l'exploration nous emmène dans un territoire à la fois fascinant et, il faut bien l'avouer, assez vertigineux.
Complètement vertigineux, oui.
Sur la table, on a un document vraiment unique. C'est une note stratégique rédigée en 2026 par Adnan Ben Chakroun. Ça s'intitule « Quand l'intelligence cesse d'être rare ».
Un titre qui pose direct le décor.
Exactement. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, elle est très claire. On va décrypter cette véritable feuille de route qui a été conçue spécifiquement pour les décideurs.
C'est un texte hyper percutant.
C'est ça. Et ça explique ni plus ni moins comment éviter l'effondrement d'un système économique qui serait devenu, et c'est tout le paradoxe, beaucoup trop productif.
Trop productif grâce à l'intelligence artificielle, oui.
Voilà. Et attention, on ne parle pas ici de l'IA générative classique qui écrit des jolis poèmes ou qui résume trois emails en vitesse.
Ah non, on est bien au-delà de ça.
On parle de l'IA agentielle, celle qui exécute des flux de travail complets, qui prend des décisions de bout en bout.
Celle qui rend la supervision humaine purement et simplement obsolète, en fait.
C'est une distinction fondamentale.
Et c'est justement ce qui rend ce document absolument crucial pour quiconque cherche à comprendre les dynamiques des prochaines décennies.
Parce que l'auteur fait un choix très radical dès les premières pages, non?
Tout à fait. Il refuse totalement de traiter l'intelligence artificielle sous l'angle du sempiternel débat éthique. Et il la considère plus du tout comme une lointaine promesse technologique.
Il l'aborde comme un fait économique brut.
Un fait brutal, immédiat et surtout irréversible. Le postulat de départ, il est volontairement inconfortable pour nos certitudes.
C'est-à-dire...
Bah, l'hypothèse est simple. L'IA fonctionne, elle va être adoptée massivement par les entreprises pour une raison évidente de rentabilité. Et donc, par conséquent,
Elle va remplacer l'utilité économique d'une immense partie de l'humanité.
c'est le cœur du sujet. L'auteur affirme qu'on ne traverse pas une simple crise cyclique. Tu sais, le genre de crise où on serre les dents en attendant la reprise.
Le fameux mauvais trimestre.
Voilà. Non, là, c'est un changement de régime total. Historiquement, la rareté qui structurait toute notre économie, c'était le travail humain qualifié.
Et ce n'est plus le cas.
Exactement. La question centrale pour les États, c'est donc plus comment sauver l'emploi, mais bel et bien comment sauver la solvabilité du système.
C'est ça. Le travail génère un revenu pour les individus, ce revenu génère de la consommation de la part des ménages, et cette consommation vient valider la production des entreprises. La boucle est bouclée.
Sauf que la source nous explique que l'IA vient briser cette chaîne de manière extrêmement nette.
Ouais, on se retrouve dans une situation inédite. On peut produire massivement sans avoir besoin d'un travail humain proportionnel en face.
Et le résultat de cette équation, il est mathématique. On a une surproduction massive du côté des entreprises.
Puisqu'elles ont des capacités décuplées par la machine.
Voilà. Et en face, une sous-demande chronique du côté des ménages.
Tout simplement parce que la masse salariale s'effondre.
C'est le cœur du problème. Et l'analogie utilisée dans le texte pour illustrer cette rupture, je la trouve particulièrement frappante.
Ah oui, celle avec le cheval.
Exactement. L'auteur écrit qu'attendre le retour du plein emploi dans ce nouveau contexte technologique, c'est exactement comme attendre le retour du cheval dans les rues après l'invention du moteur explosion.
C'est fort comme image. La substitution est structurelle.
Ce n'est pas une délocalisation temporelle, c'est définitif. Le lien historique entre la quantité de travail humain fourni et la demande globale est rompu.
Et quand on est face à une rupture d'une telle ampleur, le réflexe naturel de nos sociétés, c'est souvent de chercher une solution politique ou morale.
Bien sûr, on se tourne vers l'éthique.
On entend constamment parler de revenus universels financés par une fiscalité hyper punitive sur les riches ou de partage du temps de travail au nom de la justice sociale.
Les grands idéaux de redistribution.
Mais Ben Chakroun y balaye tout ça d'un revers de main.
Et ce qui est fascinant ici, c'est la froideur avec laquelle ces réponses morales sont qualifiées de véritables impasses stratégiques.
Pourquoi impasse? C'est pourtant ce qui vient à l'esprit en premier.
D'abord parce qu'elle repose sur une légitimité politique extrêmement fragile. Trouver un consensus social pour taxer massivement et redistribuer au nom de l'équité,
c'est une bataille qui prend des décennies.
Et qui déchire les sociétés. Mais surtout, le vrai problème, c'est la vitesse. Face à la vitesse foudroyante de cette disruption technologique, ces débats arrivent tout simplement trop tard.
L'État n'a pas le temps.
Un État ne peut matériellement pas se permettre de débattre pendant 5 ans d'un nouvel accord moral, tu vois, pendant que la consommation s'effondre sous ses pieds et que le crédit vacille.
Donc la stabilisation de la demande, elle ne peut plus être une question éthique.
Elle doit être purement technique.
Ok. Et si le revenu universel basé sur la justice sociale ne fonctionne pas, comment l'auteur propose-t-il concrètement de stabiliser cette demande sans déclencher une guerre politique?
Et la solution technique avancée, c'est ce fameux concept de dividendes économiques.
Et l'idée, c'est pas de faire faire preuve de grandeur d'âme ici.
Pas du tout. C'est de décorréler partiellement le revenu du travail parce qu'il faut absolument, vitalement, maintenir la machine à consommer en vie.
La consommation est vue ici non pas comme un droit citoyen, mais comme une infrastructure systémique critique. C'est de la plomberie, en fait.
Exactement. De la pure plomberie macroéconomique. L'idée est de socialiser de manière très pragmatique certaines rentes structurelles existantes.
On parle de quel secteur, là ?
Il suffit de regarder du côté de l'énergie, des télécommunications, l'exploitation des données ou les grandes infrastructures numériques.
Les secteurs qui génèrent des rentes massives et très automatisées.
C'est ça. Le concept développé dans la note, c'est de transformer une partie de ces rentes en dividendes économiques territorialisés.
Mais attention, il précise bien qu'il ne s'agit pas de droits universels figés dans le marbre constitutionnel.
Non, ce sont des stabilisateurs automatiques de la demande. Ils sont variables, conditionnés. Le but, c'est de faire accepter une réalité comptable difficile.
À savoir que tout le monde ne sera plus productif.
C'est un fait. Mais tout le monde doit impérativement rester solvable. L'objectif ultime de cette manœuvre, d'ailleurs, c'est même pas de résoudre le problème philosophique sur le long terme.
C'est simplement de gagner du temps.
Gagner du temps, ralentir la casse sociale pour éviter un effondrement brutal de la demande globale.
Et ce besoin vraiment obsessionnel de gagner du temps, ça nous amène à une autre partie du document, et c'est sans doute là que se trouve le choc cognitif le plus intense de notre exploration d'aujourd'hui.
Ah, la partie sur le système financier.
L'auteur affirme, de manière tout à fait impartiale et presque chirurgicale d'ailleurs, qu'il faut protéger le système financier avant le marché du travail.
C'est très fort.
Dans notre logiciel politique classique, c'est perçu comme une hérésie absolue.
Ah.
Sauver l'emploi, c'est toujours la priorité numéro un de n'importe quel gouvernement.
Oui, mais si l'on relie cela à la situation globale décrite par l'auteur, c'est d'une logique implacable.
Comment ça errate ?
La destruction des emplois qualifiés par l'IA agentielle, elle est considérée comme irréversible. Tenter de la bloquer frontalement, par exemple en interdisant l'usage de certaines technologies pour forcer l'embauche d'humains.
Ce serait un peu comme interdire les tracteurs pour forcer les gens à retourner labourer à la main.
C'est gaspiller des ressources étatiques immenses pour un résultat macroéconomique nul sur la durée. En revanche, un système financier instable, ça possède un pouvoir terrifiant.
Celui d'amplifier absolument toutes les autres crises.
Exactement. Si la finance s'effondre, elle emporte l'emploi restant. Elle pulvérise l'immobilier, elle gèle la consommation.
Et surtout, elle détruit la capacité même de l'État à emprunter et à agir.
La priorité n'est donc pas de faire du social, elle est d'empêcher une contagion systémique.
Mais ce qui est hyper contre-intuitif quand on lit la source, c'est que le véritable danger identifié ne sont pas les pertes financières en elles-mêmes.
Non, l'argent est déjà évaporé. Que l'IA détruise la valorisation d'entreprises basées sur le travail humain, c'est un fait acquis.
Le vrai danger pointé du doigt, c'est le concept de transparence.
Eh oui, c'est le moment précis où ces pertes latentes sont reconnues comptablement et jetées à la figure du public et des marchés.
C'est un point très critique. La transparence totale, qui est habituellement vénérée comme la grande vertu démocratique et financière, ça devient un risque mortel dans ce scénario.
Si on force la reconnaissance immédiate et synchronisée de toutes ces pertes liées à l'obsolescence humaine, on déclenche instantanément une panique.
La fameuse mécanique des appels de marge.
Voilà. Pour faire simple, pour ceux qui nous écoutent, quand la valeur des actifs s'effondre, les créanciers exigent des garanties immédiates. Ça force les acteurs à vendre tout ce qu'ils possèdent à n'importe quel prix pour trouver des liquidités.
Ce qui fait encore plus baisser les prix.
Et on entre dans une spirale déflationniste incontrôlable.
Et pour contrer cette spirale, la stratégie recommandée par le texte, elle est brillante de cynisme. Il l'appelle l'opacité fonctionnelle.
Au lieu de purger le système dans la douleur aujourd'hui, on gagne du temps en étalant cette douleur sur des décennies.
Le texte prend l'exemple très spécifique du private equity, le capital investissement, ou encore du crédit privé.
Ce sont des secteurs hyper exposés car ils ont parié des milliards sur des modèles économiques qui reposaient entièrement sur la productivité humaine.
Et pour ces secteurs, la réponse recommandée n'est surtout pas une purge brutale façon 2008. Ça ferait exploser tout le système bancaire.
La réponse, c'est une renégociation silencieuse, une tolérance réglementaire assumée par les autorités. Il s'agit d'allonger artificiellement les horizons d'amortissement.
En clair, l'auteur suggère au régulateur de détourner le regard.
De laisser mourir certaines structures en silence, très progressivement, pour bien séparer la perte économique réelle qui est inévitable de la contagion financière globale qui serait fatale.
C'est un peu comme enterrer les mauvaises dettes de nuit, discrètement, pour que le marché se réveille le lendemain matin en pensant que tout va bien.
C'est une très bonne métaphore, oui.
Et cette idée de panique qu'il faut éviter à tout prix, ça nous mène tout droit vers un autre point d'inflexion majeur de la note. L'axe 4, la bombe immobilière.
Le point de rupture absolu.
Dans ce scénario de 2020 suisse, l'immobilier, c'est pas juste un secteur parmi d'autres. c'est le révélateur final de cette nouvelle économie. Parce que c'est là que la sécurité psychologique des ménages se joue.
Que la bourse fluctue, pour le citoyen moyen, c'est très abstrait.
Mais quand la valeur du logement vacille, c'est la fondation même de la classe moyenne qui tremble.
Parce que l'ensemble du système de crédit immobilier repose sur une hypothèse fondamentale, et cette hypothèse est en train de se pulvériser.
La certitude qu'un individu, et particulièrement un travailleur du savoir, aura des revenus élevés et stables sur 20 ou 30 ans.
Or, avec une IA agentielle capable de disloquer les emplois de col blanc, cette continuité financière sur 3 décennies, c'est de la science-fiction. Ça devient une fiction pure et simple.
Il n'y a pas de coupables évidents à pointer du doigt.
Il n'y a pas de banquiers véreux qui ont maquillé des dossiers.
Il n'y a pas de prêts toxiques refourgués à des ménages insolvables, ni de spéculations délirantes.
Les emprunteurs qui risquent de faire défaut aujourd'hui, ce sont des cadres supérieurs, des ingénieurs, des consultants, des avocats.
Des profils dont les dossiers de crédit étaient solides comme le roc au moment où ils ont signé.
Mais ce sont précisément ces professions intellectuelles et administratives que l'IA remplace en premier. C'est l'ironie cruelle de la situation.
Et c'est cette absence de coupable, cette irrationalité apparente, qui complique toute intervention de l'État.
D'autant plus que la panique immobilière ne commence même pas avec des défauts de paiement massifs.
Elle commence dans la tête des gens.
Elle s'enclenche bien en amont, par la simple peur de l'avenir. Quand des ménages de la classe moyenne supérieure voient l'IA s'immiscer dans leur secteur, ils prennent peur pour la pérennité de leur poste.
Automatiquement, ils augmentent leur épargne de précaution.
Ils gèlent leurs projets d'achat immobilier.
Et ils réduisent drastiquement leur consommation quotidienne. Le marché se grippe de manière préventive.
C'est un basculement purement psychologique, narratif, qui précède et provoque le désastre comptable réel.
Mais face à un tel blocage psychologique, un truc qui menace de geler l'économie entière, c'est quoi la parade? Comment on désamorce cette bombe quand le mal est déjà fait dans la tête des gens?
C'est là que l'auteur introduit la nécessité vitale de maintenir ce qu'il nomme une fiction de solvabilité collective.
Une fiction de solvabilité?
Concrètement, il faut empêcher la machine de s'emballer et de détruire la valeur de l'immobilier par des ventes de panique.
Dans un monde stable, c'est le revenu du mois qui détermine la capacité de remboursement.
Ici, la proposition, c'est de décorréler temporairement les deux. Panchakrand suggère d'allonger massivement les maturités des prêts de manière conditionnelle.
De moduler les échéances en fonction des chocs de revenus.
Voire, dans les cas extrêmes, de neutraliser partiellement les intérêts pour geler la dette.
Et encore une fois, l'objectif, c'est pas d'être équitable ou d'aider les pauvres propriétaires sur le plan moral.
Non, l'objectif est purement macroprudentiel. Il faut bloquer physiquement les mécanismes automatiques de propagation de la crise. Éviter à tout prix les ventes forcées en cascade.
Parce que ces ventes feraient s'effondrer les prix de l'immobilier urbain.
Et détruiraient instantanément le bilan des banques qui détiennent ces créances. Donc, on maintient la fiction que tout va bien.
Que la dette sera remboursée un jour. Parce que si cette fiction se brise, la confiance ne se reconstruit plus.
Exactement.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ça soulève une contradiction monumentale.
Sur le financement de tout ça?
Bah oui. Si les revenus humains s'effondrent sous l'effet de l'IA, et que l'État s'acharne à maintenir ce système sous perfusion avec des dividendes économiques, des fictions de solvabilité, où est-ce que l'État va trouver son argent?
C'est le grand paradoxe.
Aujourd'hui, on le sait, l'immense majorité des recettes d'un État provient de la taxation du travail humain. L'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la TVA issue des salaires dépensés.
Si la création de richesses ne transite plus par le salaire d'un humain, c'est toute la base fiscale de la nation qui s'évapore dans la nature.
C'est le nœud du problème fiscal. La tentation classique, presque pavlovienne, d'un État face à une baisse de revenus, c'est quoi ben? C'est d'augmenter les taux d'imposition sur la base qui lui reste.
Et le texte est catégorique là-dessus. Surtaxer le travail humain qualifié qui subsiste encore, ce serait une erreur stratégique monumentale.
Ah bah dans un monde où l'humain est déjà en train de devenir le facteur de production le plus lent et le plus cher face à l'IA.
Une IA qui travaille 24 heures sur 24, oui.
Surtaxer ce travailleur humain ne ferait qu'accélérer son remplacement par la machine.
Ce serait punir financièrement ce qui subsiste de l'emploi classique. Alors, du coup, quelle est la nouvelle assiette fiscale? Il faut bien capter la valeur quelque part si l'économie continue de produire des richesses, même sans nous. Comment on taxe une économie où le travailleur est un algorithme?
La solution pragmatique développée dans la source, c'est de suivre la valeur physique, là où elle circule réellement.
Dans l'infrastructure technologique.
Voilà. Le document propose de taxer le compute, c'est-à-dire la puissance de calcul brute.
Il faut imaginer les gigantesques data centers, les immenses clusters de cartes graphiques, les réseaux de transmission.
des ogres qui consomment des quantités astronomiques d'énergie, d'eau pour le refroidissement et d'espace foncier.
Et qui génèrent des rentes privées massives. L'auteur propose de les taxer exactement comme on taxerait une concession minière.
Ou un puits de pétrole offshore. On taxe plus le fruit du travail, on taxe l'outil physique qui permet à l'IA d'exister.
Et le raisonnement va encore plus loin. Il y a une idée qui semble tout droit sortie de la science-fiction, mais qui est d'une logique économique redoutable.
Considérer les agents IA autonomes comme des acteurs imposables à part entière.
C'est ça. Imaginons une IA logistique qui négocie les prix des containers, qui optimise des routes maritimes et effectue des paiements à d'autres IA financières. Le tout en quelques millisecondes.
Et sans aucune intervention humaine.
L'auteur affirme que ces flux de machine à machine doivent être taxés.
On parle de micro-prélèvements, là.
Des fractions de centimes, oui. Mais sur des milliards de transactions automatisées par jour. C'est pas une taxe sur les robots pour des raisons morales ou pour venger l'humain remplacé.
C'est simplement le seul moyen de capter la valeur là où elle s'échange désormais.
C'est un glissement inévitable vers la taxation des flux automatisés. Mais attention, ça soulève un immense paradoxe opérationnel pour l'État lui-même.
Bah oui, d'un côté, il doit repenser toute sa philosophie fiscale pour survivre, et de l'autre, il doit continuer à maintenir ses immenses services publics avec des budgets sous haute tension.
Et le texte pointe du doigt un mythe très tenace, celui de l'administration humaine qui serait prétendument irremplaçable, qui ferait du sur-mesure.
La réalité, c'est que l'État moderne, il est extrêmement dépendant de processus administratifs qui sont lents, redondants et atrocement coûteux.
S'il refuse de s'automatiser pour préserver l'emploi de ses propres fonctionnaires, pendant que le secteur privé déploie l'IA à la vitesse de la lumière,
il va droit vers une double défaite, une ruine financière et une perte totale de légitimité aux yeux des citoyens. C'est un peu comme si l'État s'entêtait à communiquer par fax pendant que les entreprises privées coordonnent des flottes de drones autonomes.
Le décalage deviendrait absurde. L'État doit donc s'appliquer le remède à lui-même, de gré ou de force.
Il doit automatiser massivement la collecte de l'impôt, l'attribution des aides sociales, voire des pans entiers de la justice administrative et de la santé publique.
C'est vertigineux d'imaginer une telle bascule à l'échelle d'un pays, mais c'est une question de survie fonctionnelle pure. L'IA doit devenir le nouvel agent régulateur de l'État.
Mais le document insiste lourdement sur un point de souveraineté capitale.
Ah oui, l'État ne peut en aucun cas dépendre d'IA privées, développées par des mégacorporations, ou d'IA étrangères pour faire tourner le cœur de son administration.
Il doit impérativement développer et posséder une IA souveraine et ses propres infrastructures de calcul.
Il doit accepter de déléguer l'exécution microscopique et quotidienne à la machine, tout en gardant le contrôle opérationnel macroscopique. S'il ne le fait pas, il perdra tout simplement le pouvoir réel.
Au profit des systèmes privés qui, eux, sont capables de décider à la bonne vitesse.
Exactement.
Alors quand on prend un peu de recul sur toute cette mécanique implacable, on se demande qu'est-ce que tout cela signifie pour la société de tous les jours. C'est ce qu'aborde la cinquième partie du texte.
L'économie à deux vitesses.
Comment une société peut-elle espérer tenir debout face à une telle fracture ? D'un côté, un monde ultra-automatisé qui génère des milliards, et de l'autre, le reste de la population.
Cela soulève une question importante, et l'auteur y répond avec une froideur analytique assumée, qui peut choquer.
Son constat est simple. L'économie à deux vitesses n'est pas une dystopie à venir dans 50 ans.
Elle est déjà là, sous nos yeux.
Il décrit d'un côté un noyau économique hyper-productif, massivement automatisé par l'IA agentielle et extrêmement intensif en capital.
Et de l'autre côté, une périphérie humaine, cantonnée à des PH à faible productivité marginale, souvent dans les services à la personne ou l'artisanat de niche.
Et la thèse centrale ici, c'est que chercher l'égalisation totale de ces deux mondes par l'interventionnisme classique, c'est impossible.
La productivité du travailleur humain moyen ne rattrapera jamais celle de l'infrastructure IA. La stratégie prônée pour les décideurs n'est donc pas de chercher à résorber magiquement cette fracture.
Mais de là, la contenir. Contenir la fracture plutôt que de la réparer, ça ressemble un peu à une gestion de crise permanente.
C'est exactement ça. Et en termes de politique publique, ça implique avant tout de dépolitiser l'économie autant que possible.
Ne pas transformer cette transition en guerre morale entre les gagnants de la tech et les perdants.
Car cela bloquerait toute la société. Il faut se concentrer sur l'essentiel, assurer une solvabilité minimale à cette vaste périphérie humaine.
Via ces fameux dividendes économiques dont on parlait au début.
Pour maintenir ce dernier point de contact indispensable qu'est la consommation, les gouvernements doivent accepter que les trajectoires de revenus vont diverger radicalement.
Tout en empêchant que l'interaction sociale entre ces deux sphères ne devienne explosive ou violente.
Et pour maintenir cette paix sociale précaire, l'auteur dresse, à la fin du document, un véritable catalogue des illusions dangereuses.
Des pièges dans lesquels les politiciens ne doivent absolument pas tomber s'ils veulent maintenir la stabilité. C'est presque un manuel de survie anti-crise.
Il liste notamment le fait de continuer à promettre un retour futur du plein emploi qualifié.
Ce qui est perçu comme une fuite en avant pathétique.
Ou encore le fait de confondre morale et stratégie économique face à une machine qui n'a pas d'état d'âme.
Il met aussi très fortement en garde contre l'illusion de la formation continue à grande échelle.
Promettre des reconversions massives à des millions de professionnels de la gestion, de la comptabilité ou du droit, dont les compétences cognitives sont rendues obsolètes par l'IA, c'est un mensonge d'État.
C'est alimenter une défiance qui finira inévitablement par se retourner contre les institutions.
Former un comptable pendant un an pour qu'il rivalise avec une IA agentielle qui s'améliore chaque semaine, c'est une bataille perdue d'avance.
Chaque promesse de reconversion non tenue deviendra une bombe à retardement social.
Et bien sûr, comme on l'a vu, il répète qu'il ne faut surtout pas laisser le marché de l'immobilier se corriger seul selon les lois de l'offre et de la demande.
Car c'est le chemin le plus direct vers la panique systémique totale.
L'analyse est d'une lucidité redoutable.
Vraiment. Pour clôturer cette exploration des sources, penchons-nous sur la synthèse finale, cette fameuse prévision personnelle qui conclut la note d'Adnan Benchakroun.
Que se passe-t-il, concrètement, si les décideurs politiques ignorent ces avertissements et continuent de gérer l'économie des années 2030 avec les outils conceptuels des années 1990 ?
Si rien n'est fait pour adapter les structures, l'auteur nous prévient, on n'assistera pas à une apocalypse spectaculaire et soudaine, façon grand soir ou film catastrophe.
Ce sera en réalité bien pire et bien plus pernicieux. Ce sera une érosion prolongée, silencieuse et profondément douloureuse du tissu social.
La destruction des emplois qualifiés continuera son cours, mais elle sera masquée dans un premier temps par des profits records affichés par les entreprises dopées à l'IA.
Puis, mécaniquement, la consommation globale ralentira de manière structurelle. Les marchés immobiliers des grandes métropoles se mettront à se fissurer lentement, gelant la création de crédit.
Et quand la finance internationale sera enfin forcée de reconnaître la réalité comptable de cette dislocation humaine, il sera trop tard pour agir en douceur.
Les États tenteront d'intervenir dans l'urgence absolue en s'endettant massivement sur des marchés paniqués, mais en utilisant des outils de relance obsolètes qui ne fonctionneront plus.
La survie dans cette nouvelle ère, conclut le texte, n'exigera pas des dirigeants qu'ils soient vertueux moralement, mais qu'ils fassent preuve d'une lucidité clinique et absolue.
Une lucidité absolue pour ne pas sombrer avec le navire ?
C'est exactement pour cela que plonger dans des documents stratégiques de cette profondeur est absolument indispensable pour quiconque souhaite comprendre les forces titanesques qui vont modeler nos prochaines décennies.
Quand on écoute ce genre d'analyse, on réalise qu'on est bien loin des simples articles de presse, sensationnalistes, sur la dernière fonctionnalité d'un chatbot.
On touche ici au moteur même de la civilisation humaine moderne, à la mécanique intime de la survie de notre système.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, décortiquer toute cette architecture de survie, ça me pousse vers une dernière réflexion. Une pensée un peu vertigineuse qui émerge quand on absorbe vraiment toute la brutalité de cette mécanique où l'humain est relégué au second plan.
Je t'écoute.
Si l'objectif ultime, la grande stratégie de cette nouvelle ère, se résume finalement à de la simple tuyauterie, s'il s'agit juste de maintenir la stabilité financière à tout prix et de distribuer des dividendes techniques pour garder les humains tout juste assez solvables pour qu'ils continuent à consommer ce que des machines produisent de manière autonome...
Que deviendra la quête de sens de l'humanité ?
Exactement. Lorsque le sentiment d'utilité économique, le travail, le fait de construire des choses qui a structuré nos sociétés et nos fiertés depuis des siècles, cessera d'être le moteur d'une vie humaine, comment nos cultures, nos ambitions personnelles et notre propre identité collective vont-elles réussir à se réinventer dans cet immense vide productif ?
C'est une question vertigineuse.
C'est sans doute la seule question que toute la puissance de calcul du monde ne pourra pas résoudre à notre place. Un grand merci à ceux qui nous ont rejoints pour cette analyse. Gardez l'esprit ouvert et à la prochaine pour une nouvelle plongée dans nos sources.